Alors, le premier texte se trouve dans Néhémie, pardon, chapitre 8, versets 1 à 3. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Et le deuxième texte se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, les versets 14 à 21. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accompli. »
Merci. Les réformes sont de mode aujourd'hui. Régulièrement, les gouvernants de ce monde s'y essayent. Ils font face, ça et là, à quelques résistances qu'ils gèrent tant bien que mal. De temps à autre, ils se réjouissent un petit peu de quelques réussites qui, bien souvent, ne seront que des réussites en demi-teinte, car bien souvent, nous le savons, ils ne font que déplacer les injustices d'une catégorie sociale à une autre. Ils le savent bien, il me semble, il n'y a pas de réforme juste, profonde, durable, sans changement de cœur. Ce qui malheureusement n'est pas de leur compétence. Il en va de même aussi de l'Église. Plus de 20 siècles d'histoire nous enseignent qu'il n'y a pas de réforme profonde, pertinente, durable, sans changement intérieur. Un changement qui ne tombe pas du ciel, qui ne s'opérera jamais d'un coup de baguette magique, ni par quelque changement de système. La nature humaine est bien plus complexe que cela, et les relations humaines encore plus. Le vivre ensemble est réellement un défi quotidien, que ce soit dans la société, que ce soit dans l'Église qui est une mini-société, que ce soit dans les familles qui sont des mini-sociétés. Le vivre ensemble. Comment vivre de véritables réformes utiles, bénéfiques pour tous? Comment expérimenter alors une réforme intérieure, puisque c'est là que tout commence? Je vous invite à méditer ce matin sur ce thème. Comment nos vies peuvent-elles changer? Tout le peuple, comme un seul homme, se rassembla sur la place. L'histoire du peuple d'Israël nous montre que toute réforme réelle, profonde et intérieure ne s'opère que par une écoute attentive de la parole de Dieu. Ici, dans le texte que nous avons lu, dans le livre de Néhémie, ce texte nous raconte comment, après 70 ans d'exil, Le peuple d'Israël se retrouve à nouveau en liberté, il va reconstruire son temple, il va reconstruire la ville de Jérusalem, et puis au bout d'un certain temps, le peuple va désirer encore autre chose, il est encore insatisfait. Et c'est là où le peuple lui-même va demander au scribe, à Esdras, de lui faire la lecture de la loi. Commence alors une lecture publique de la parole de Dieu sur la grande place. Une lecture, si nous lisons la suite, qui est expliquée en même temps. Et le peuple écoute, nous dit le texte, de façon attentive. Et que se passe-t-il ? Si nous lisons la suite, nous voyons qu'à partir de là, s'est opérée dans ce peuple une réforme extraordinaire. Des changements de vie. Le peuple va commencer tout d'abord par redécouvrir la fête. C'est étonnant que ça commence par la fête. Ils vont faire la fête des huttes. Ils vont se rendre compte que oui, Dieu était un Dieu aussi qui aimait la fête, qui voulait la joie. Et il recommence alors à faire la fête. Il dit, c'est vrai, on avait oublié cela. Et puis, quelque temps après, vient aussi le temps de la confession, le temps de la repentance, le temps où chacun se regarde soi-même au regard de la parole de Dieu et le temps où on commence à réaliser peut-être qu'il y a eu des écarts au fil du temps. Et c'est alors que le peuple, comme un seul homme, va se mettre à réformer, reconstruire spirituellement sa vie. Il va rétablir tous les services religieux qu'ils avaient mis de côté, le respect du sabbat qu'ils avaient oublié, la dîme qu'ils avaient oubliée, les différentes fonctions du temple, la pureté par rapport au paganisme. Voici qu'ils redécouvrent tant et tant de choses qu'ils avaient oubliées ou mis de côté. Et en quelque temps, ce sera une véritable révolution spirituelle qui s'opérera parmi ce peuple. De quoi faire rêver nos gouvernants ? De quoi faire rêver l'Église aussi ? C'est tout à coup une joie, une paix sociale, une justice sociale, une vie culturelle tellement renouvelée. Pas nouvelle, mais renouvelée. Tout ceci comment ? À partir d'une écoute attentive de la parole de Dieu. Une écoute où chacun se regarde soi-même d'abord, avant de regarder les autres. Bien des siècles après, on retrouve Jésus dans une synagogue. Et lui aussi se lève pour faire la lecture de la parole de Dieu. Lui aussi nous dit qu'il est venu dans ce monde pour accomplir des réformes. Et les réformes qu'il est venu accomplir sont celles aussi de cette vie intérieure. Jésus est venu accomplir une réforme qui sauve tout ce qui y adhère, bien sûr. Une réforme qui change aussi la perspective de la vie. La réforme que Jésus est venu apporter dans ce monde touche tous les domaines de la relation, qu'elle soit relation avec Dieu, qu'elle soit relation avec les humains. C'est une véritable révolution que Jésus est venu accomplir sur la terre. Libération de l'esclavage du péché, libération de l'oppression, de la condamnation, libération de la mort, mais aussi nouvelles relations humaines, nouvelle échelle de valeur fondée sur l'amour, sur le pardon, sur le respect, sur la vérité, sur l'intégrité. Redonner la dignité aux pauvres, la vie aux aveugles. Ce sont des profondes mutations sociales que Jésus est venu aussi annoncer et accomplir au-delà du salut. En Jésus aussi, c'est une révolution religieuse qui a eu lieu. Plus besoin de sacrifice pour le pardon des péchés, puisqu'il s'est sacrifié pour nous. Plus besoin de vendeurs dans le temple, plus besoin de bazar, plus besoin de longues et de belles prières aussi pour se montrer, mais besoin de sincérité, besoin d'authenticité, besoin de respect. La réforme que Jésus est venu apporter est de taille, elle touche tous les domaines de la vie. Et tout ceci à partir de sa parole. Tout ceci est rendu possible par son sacrifice. C'est l'apôtre Paul qui dira, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus roula le livre et s'assit. Imaginons un instant la scène. Les gens sont là à la synagogue comme d'habitude. Ils sont venus pour entendre la parole de Dieu comme d'habitude. Mais ce jour-là, c'est un peu différent. Celui qui lit est déjà différent. Et puis celui qui lit, au bout d'un moment, s'assoit. Et tout le monde le regarde. Qu'est-ce qu'il va dire? Ce qu'il lit est extraordinaire. Un beau texte du prophète Ésaïe. Et voilà que Jésus dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Voilà. Cette révolution que vous voulez, cette réforme que vous voulez, ces changements que vous voulez, ils sont là. Ils sont accomplis. Mais c'était peut-être trop beau. La lecture et les explications de Jésus tournent mal. Si nous lisons la suite du texte, nous voyons que ce jour-là, le peuple n'en voulait pas. Bien plus, ce jour-là, ils ont chassé Jésus de leur ville, et non seulement ils l'ont chassé, mais ils ont essayé même de le précipiter de la colline pour le faire mourir. Et là, il me semble aujourd'hui que cette réforme du cœur, de la vie intérieure que Jésus est venu établir, n'est pas toujours acceptée, accueillie, mise en pratique. Que ce soit dans le monde, mais parfois aussi dans l'Église. On préfère trop souvent nos habitudes, on préfère trop souvent nos travers, nos ornières. On préfère trop souvent aussi parfois chercher des responsables à nos malaises ou à nos mal-être ou au dysfonctionnement. On essaye souvent de changer les autres. Parfois même, nous qui sommes spirituels, nous prions pour que Dieu change les autres. Ou bien on préfère peut-être rester comme on est. Pourquoi changer? Certes, j'en suis persuadé, la plupart d'entre nous ici, nous avons sincèrement accepté la grâce de Dieu en Jésus. Nous avons même été baptisés. Nous sommes peut-être même membres d'église aussi. Nous lisons la Bible tous les jours. Mais quel changement dans nos vies? La parole de Dieu, nous dit la parole elle-même, est une épée à double tranchant. Elle nous dit aussi que c'est un miroir. Certes, elle renferme de merveilleuses promesses, et celles-là, nous les connaissons toutes. Je t'aime d'un amour éternel, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ne crains rien. C'est beau tout ça, c'est très beau. Mais la parole de Dieu aussi pointe quelques faiblesses chez nous, dans nos cœurs. Parfois nos manquements, parfois nos péchés. Elle est là aussi pour réformer nos cœurs. Elle réforme les cœurs de ceux qui plongent leur regard sincèrement dans cette parole. On ne peut pas lire la parole de Dieu, on ne peut pas écouter la parole de Dieu et ne pas expérimenter des changements dans nos vies. Si tel était le cas, s'il n'y aurait pas de changement, alors il faudrait peut-être que nous revoyions notre façon et notre méthode de lecture. Parce que la parole de Dieu nous interroge. Par exemple, de la Genèse à l'Apocalypse, elle nous interroge. Par exemple, avec Caïn et Abel, nous l'avons vu cette semaine dans l'étude biblique, elle questionne notre manière de venir rendre un culte à Dieu. Avec Abraham, elle questionne peut-être la mesure de notre foi, de notre confiance en lui. Avec les proverbes, elle nous apprend ce qu'est la sagesse, ce qu'est le commencement de la sagesse, la crainte de l'Éternel. Avec les psaumes, elle nous apprend ce qu'est l'adoration. Avec Jésus, elle nous apprend ce qu'est la révolution, celle du cœur. Et puis avec les chrétiens, les premiers chrétiens, elle nous apprend aussi ce qu'est et ce que sont les épreuves de la vie qui touchent tous les croyants. Pourquoi sommes-nous si étonnés, si déstabilisés à la moindre de nos épreuves? Jésus est venu dans ce monde pour nous sauver, oui. Mais il est venu aussi changer nos cœurs. La vie chrétienne ne se résume pas à la nouvelle naissance, elle ne se résume même pas au baptême. Elle se doit d'aller bien plus loin. C'est toujours l'apôtre Paul qui écrit comme, je dirais, une direction, une orientation, comme donner un sens à la vie chrétienne. Il dit « Nous tous qui, le visage dévoilé, reflétons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Il est là le sens de la vie chrétienne. Ne pas se contenter d'être sauvé, ne pas se contenter d'avoir l'assurance de la vie éternelle, mais réaliser que nous sommes invités les uns et les autres chaque jour à nous laisser transformer, à nous laisser réformer intérieurement par cette parole et par l'Esprit du Seigneur, afin que réellement le monde puisse croire, afin que réellement ceux qui sont autour de nous puissent voir autre chose et puissent trouver ce à quoi ils aspirent profondément, mais qu'ils ignorent malheureusement. On veut, ma prière ce matin, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions et nous sachions régulièrement revisiter notre vie intérieure à la lumière de la parole de Dieu, revisiter notre engagement, revisiter notre pratique du culte personnel, notre lecture de la Bible. Revisiter aussi notre façon de venir rendre un culte communautaire au Seigneur. Revisiter aussi notre relation aux autres. Que nous puissions faire notre cette prière du psalmiste. Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur. Enseigne-moi tes routes. Et que notre vie chrétienne ne se résume pas à ce que nous savons déjà, mais que notre vie chrétienne soit une vie chrétienne qui aille de transformation en transformation, de changement en changement. C'est pour cela que le Seigneur est venu aussi. Et c'est pour cela qu'il nous a donné son esprit. Que Dieu nous aide à nous laisser changer, transformer par son esprit. Amen. Je vous invite à rester.